Nous avons parlé, j'espère que vous vous en souvenez, durant deux dimanches de l'intégrité, qui est l'une des valeurs de notre Église. Et nous avions vu que celle-ci, et c'est important de le dire, me semble-t-il, ne consistait pas, mais vraiment pas, en l'observance de toute une série de marqueurs identitaires devant nous permettre de nous distinguer de ceux du dehors, mais bien en la prise de conscience de qui nous sommes, sans artifice, et de ce que Dieu a fait et veut faire pour nous, et en nous. Rappelez-vous, j'avais terminé en disant « devenir et non paraître », pas faire semblant. Après avoir démasqué en quoi consiste la pseudo-transformation et avant d'aborder nos autres valeurs, je pense qu'il faut à présent nous arrêter quelque peu sur la notion de vie spirituelle dans son sens large. Il ne sert à rien, à mon sens en tout cas, d'aborder les outils mis à notre disposition par Dieu pour notre croissance, comme mon petit protestant, vous le savez, hein, comme la parole de Dieu, la prière, etc., sans avoir au préalable réfléchi au cadre dans lequel ces outils sont supposés fonctionner. Parce que même ces outils, si on s'en sert mal, ça va nous culpabiliser et nous épuiser. Alors en réfléchissant à ça, j'ai essayé de trouver une image. Alors comme toutes les images que je peux sortir, elle sera limitée, hein, mais bon, je vous la donne. Hein. Ça va peut-être plus particulièrement vous parler à vous, messieurs, en tout cas à toi, José, tu vas savoir pourquoi. Imaginez surtout donc vous, messieurs, alors que vous regardez tranquillement la télévision un soir, qu'on frappe à la porte. Mais qui est-ce ? Vous dites-vous. Vous ouvrez la porte et devant votre porte ouverte, il y a deux représentants de l'Union Belge Football. Et ils viennent vous annoncer que vous avez été sélectionné parmi tous les millions d'habitants en Belgique, à travers un processus d'ordinateur très sophistiqué, vous avez été sélectionné pour faire dorénavant partie de l'équipe nationale de football de Belgique. Vous allez jouer avec Eden Hazard, Kevin De Bruyne et tous les autres. D'après ce logiciel, vous avez toutes les capacités physiques, intellectuelles, émotionnelles, et tout, psychiques. Vous êtes le gars qu'il leur faut. Hein, imaginez, hein. Madame, ça vous parle moins, je sais bien, mais José, t'imagines, hein. Alors, vous n'endormez plus la nuit, forcément. Vous rêvez des matchs. Vous voyez en finale marquer le but décisif contre la France. Mais j'ai toujours pas avalé, hein. Toujours pas. Et puis vous rentrez en Belgique et ce sont les acclamations, la foule en délire crie votre nom. Where is the future? Here is the future, hein. Oui, c'est du néerlandais, je suis parfait bilingue. Donc c'est vraiment la chance de votre vie, hein, cette histoire. Et c'est là que ça vous tombe dessus. D'un coup, paf, vous savez pas jouer au foot. Vous n'avez pas le niveau. Vous ne savez pas jouer au foot. Vous ne pourriez pas acquérir le niveau nécessaire, même si vous essayez de toutes vos forces de jouer au foot. Aujourd'hui, vous ne savez pas jouer au foot. Et essayer de toutes vos forces, à coup de volonté, ne servira strictement à rien. Vous allez devoir, écoutez-moi bien, entamer une vie d'entraînement. Eh oui! Vous allez devoir organiser votre vie autour de certaines pratiques qui vous rendront capable de faire ce que vous ne pouvez pas faire par la seule puissance de votre volonté. Quand il s'agit de jouer, pour reprendre mon exemple, au foot à ce niveau-là, il faut s'entraîner. Pas seulement essayer de jouer. Ça suffira pas. Ce besoin de s'entraîner, et vous l'aurez sans doute déjà compris, ne touche pas seulement le domaine du sport, hein. Vous devrez vous entraîner si vous voulez apprendre un instrument de musique. Si vous voulez apprendre une langue étrangère, il va falloir s'entraîner. Si vous voulez diriger une affaire, il va falloir s'entraîner. En fait, c'est nécessaire dans tous les domaines de la vie, y compris, bien entendu, la croissance spirituelle. C'est même vrai dans la vie de couple. Vous voulez que ça marche, vous devrez vous entraîner à aimer, parce que ça ne va pas venir tout seul. Il ne faut pas croire tout ce qu'ils vous disent à la télé, hein, c'est pas vrai, hein. Voici le principe spirituel que j'ai mis des années à comprendre. Ça va peut-être pas vous rassurer, mais des années à comprendre, alors que des auteurs chrétiens depuis le premier siècle en parlent. Hein, mais bon, on lit parfois des gros livres et on passe à côté de l'essentiel. Voilà ce principe. Il y a une énorme différence entre s'entraîner à faire quelque chose et essayer de faire quelque chose. Il y a une énorme différence entre s'entraîner à faire quelque chose et essayer de faire quelque chose. Pendant des années, je donne un exemple personnel, hein, pendant des années, chaque fois que j'entendais un message, vous voyez, c'était le bon temps, il y a des moments, à cette époque-là, j'étais assis sur une chaise et quelqu'un d'autre qui parlait. Pendant des années, chaque fois que j'entendais un message m'appelant à suivre Jésus, dans les églises, ça arrive quand même de temps en temps, j'y songeais en termes d'essayer plus fort de lui ressembler. C'était automatique. J'allais m'engager à essayer plus fort de lui ressembler. À l'époque, si je prêchais, ça m'arrivait, un message sur la patience, le lundi matin en me réveillant, j'allais faire le maximum, essayer de devenir plus patiente avec une petite fille 3 ans à la maison, c'était extraordinairement compliqué. Et je voyais bien que le simple fait d'essayer d'être patient, ça ne suffisait pas. Changer, être transformé spirituellement n'est donc pas une question de volonté, mais d'entraînement adapté. C'est exactement, ça peut peut-être étrange ce que je suis en train de vous dire, mais c'est exactement ce que Paul veut dire lorsqu'il écrit à son petit protégé Timothée, qui est son bébé spirituel, si on peut dire ça comme ça, pour l'encourager à continuer l'entraînement. Voilà ce qu'il écrit à Timothée, qui est à l'époque pasteur de l'église d'Éphèse. Mais rejette les histoires fausses et contraires à la foi, entraîne-toi. Entraîne-toi, c'est le terme grec. Hein. Je ne vais pas vous le citer, c'est trop compliqué. J'arrive pas à le dire surtout. Entraîne-toi plutôt à rester fidèle à Dieu. Entraîne-toi. Il dit pas sois fidèle. Non. Entraîne-toi à rester fidèle à Dieu. Vous êtes fidèle à Dieu? Ben, il faut s'entraîner. Ça vient pas tout seul. Hein? Ben oui. C'est la même pensée qui anime l'apôtre Paul toujours lorsqu'il écrit ses paroles aux chrétiens de Corinthe. Je vous les cite. Tous les sportifs, il leur écrit ça, hein, et pourtant il parle d'un sujet spirituel, hein, tous les sportifs s'entraînent en se privant de beaucoup de choses. Eux, ils le font pour gagner une récompense qui ne dure pas. À l'époque, une couronne de laurier. Alors, le laurier, même à l'époque, sa femme, après, enfin, demandez à César, hein, couronne de laurier. Donc, eux, ils le font pour gagner une récompense qui ne dure pas. Nous, c'est pour une récompense qui dure, à savoir la connaissance de Dieu et plus tard la vie éternelle. La comparaison sportive utilisée par Paul ne doit pas nous surprendre. À l'époque, il existait de prestigieuses compétitions dont la plus renommée était déjà les Jeux Olympiques. Ben oui. Mais nous savons par exemple qu'il y avait aussi les fameux Jeux Ismiques qui se déroulaient à Corinthe, justement, la première et la troisième année de chaque Olympiade et que Paul y a assisté lors de son séjour à Corinthe, il y est resté 1 an et demi, en l'an 51. Paul y était. Il a probablement, plus que probablement, assisté à certaines compétitions et de là, l'utilisation qu'il fait dans cette lettre aux Corinthiens de l'analogie sportive. Certains poussent même jusqu'à dire que Paul a même fabriqué des tentes pour l'événement, puisque c'est son métier, grâce à son papa, et c'est comme ça qu'il gagnait sa vie. Tous ces athlètes de l'époque ne se contentaient pas d'essayer d'être le meilleur, ils s'entraînaient pour le devenir. Donc bien faire la distinction entre simplement essayer et s'entraîner est la clé en fait de la transformation dans tous les domaines de la vie. Alors j'ai dit ça, vous êtes peut-être en train de vous dire, oui, enfin, moi je vois pas la facilité là-dedans. Parce qu'il y a un problème. Nous avons, enfin moi j'ai, et je suis certain que vous avez le même problème que moi, nous avons un problème dans notre façon de penser. Si je vous disais que vous pourriez apprendre à jouer les œuvres de Bach au clavier en passant des années à pratiquer vos gammes et à claquer les accords, vous me diriez sans doute que le chemin est bien trop difficile. Non ? Oui. En fait, si c'est ce que vous pensez, vous avez tort. Passer des années à faire des gammes est le chemin le plus facile pour apprendre à jouer du Bach. C'est aussi bête que ça. C'est le chemin le plus facile. En fait, c'est le seul entre nous. Maintenant, imaginez que vous vous retrouviez devant un piano, avec une partition de Bach devant vous, devant une salle bondée de monde qui vous attend pour jouer, et que vous n'avez jamais, mais jamais pratiqué vos gammes. Vous ne vous êtes jamais entraîné. Là, je peux vous dire que ça, c'est le chemin super difficile. Hein, parce qu'en plus, vous allez passer pour une tarte. Ce que nous devons donc comprendre, c'est que ce besoin de préparation, d'entraînement, s'applique aussi à des sujets comme le pardon, la joie, le courage. Autrement dit, cela s'applique à la vie spirituelle comme à la condition physique ou à l'activité intellectuelle. Vous ne deviendrez pas malin si vous ne lisez pas des livres. Mais ça s'apprend à lire des livres. Comprendre le contenu d'un livre, ça veut dire ce que je dis. Jamais trop tard pour bien faire, ça s'apprend. Apprendre à penser, à ressentir et à agir comme Jésus est tout aussi exigeant que de devenir capable de jouer avec les diables rouges au foot ou de jouer du piano. C'est exigeant, mais c'est possible. Donc, pour simplifier, suivre Jésus signifie simplement apprendre de lui comment organiser ma vie autour d'activités qui me permettent de vivre progressivement dans le fruit de l'esprit. C'est pour ça que j'ai mis un bel arbre balayé par le vent. Le vent, pneuma, esprit, voilà. Alors le terme traditionnel, on va revenir au spirituel pur, le terme traditionnel utilisé pour de telles activités, on les appelle communément, habituellement, des disciplines spirituelles. Pourquoi disciplines ? Parce que dans discipline, il y a disciples. Et là, il y a un autre problème qui arrive. Rien qu'à dire le mot discipline, on se dit aïe, 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 aïe. Il y en a un autre qui s'invite à la table de notre pensée tout de suite. C'est le mot légalisme. On va faire des trucs. Tenter de gagner les faveurs de Dieu par nos bonnes résolutions. Ça ressemble furieusement aux résolutions de début d'année, hein, début du mois de janvier. Hein, je vais arrêter de boire, je vais manger moins, je vais faire du sport, je vais recommencer la course à pied. Et ben, tout ça, on laisse tomber, et on est démoralisé, et on s'en veut, etc. Pour nous, ce mot discipline, c'est le royaume des bonnes intentions qui, nous le savons bien, n'ont jamais rien changé à qui que ce soit. J'en ai vu, à titre personnel, des livres portant des titres évoquant la discipline. Célébrer, ça c'est un des meilleurs ça. Célébrer la discipline. 12 règles de discipline pour une vie spirituelle réussie ou harmonieuse. Chaque fois que je tombais sur ce genre de bouquin, je me disais, je me sens déjà coupable de ne pas lire ma Bible tous les jours et de ne pas prier assez. La dernière chose dont j'ai besoin, c'est 12 trucs supplémentaires qui me feront me sentir encore plus coupable parce que je serai incapable de m'y tenir. Et je pense être pas le seul dans le domaine. Pourtant, avant d'expliquer ce que sont les disciplines spirituelles en question et comment les vivre vraiment, hein, on va peut-être commencer par faire une chose super importante. Je vais vous expliquer ce qu'elles ne sont surtout pas. Mais on le considère souvent comme ça. Et c'est pour ça qu'on est malheureux. Les disciplines spirituelles, bon, par exemple prier, lire sa Bible, etc. Les disciplines spirituelles ne sont pas un baromètre, j'y ai un peu fait allusion la semaine passée, ne sont pas un baromètre de votre vie spirituelle. Ce n'est pas un outil de mesure. Vous ne pouvez pas mesurer votre vie spirituelle, ni qui que ce soit d'autre d'ailleurs, ne peut mesurer votre vie spirituelle sur ce genre de discipline. Donc, votre petit pasteur chéri, n'évalue pas votre... Parce que je vous évalue votre croissance en permanence, ça je ne vous le dis jamais, mais je n'évalue jamais votre croissance spirituelle dans votre relation à Dieu, votre intimité à Dieu, par rapport au fait que vous lisiez la Bible en un an. Hein. D'accord ? Si vous le faites, c'est bien. Mais je ne vais pas dire, ah, t'as arrêté de le faire, t'es vraiment un mauvais chrétien, toi. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut vraiment se le foutre dans la tête. Hein. Mais dans beaucoup, parfois, dans les églises, c'est quand même ce qu'on vous vend. Hein. Ah, t'as arrêté, tu ne lis plus ta Bible, mon Dieu. Ah, hein. J'exagère à peine. Donc, de nombreuses personnes se réveillent tous les matins avec un poids sur les épaules parce qu'elles pensent que Dieu mesure leur performance spirituelle sur base de la pratique de certaines disciplines. Eh bien, ce n'est pas vrai. Notre Père n'est pas comme ça. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il nous aime. Il ne juge pas ses gosses, lui. De temps en temps, il leur fout une claque quand il le mérite, mais voilà. La vérité sur ce sujet est en fait tout à la fois difficile et libératrice. C'est un peu paradoxal. Et c'est Martin Luther qui, à mon sens, a le mieux exprimé ce que nous pouvons considérer comme, bah oui, comme un paradoxe. Voici comment débute son livre « La liberté du chrétien ». C'est un beau titre. Hein. Un chrétien est un libre seigneur. Ça part bien, ça. Surtout, et n'est soumis à personne. Ça, c'est génial. Un chrétien est un esclave asservi en tout et est soumis à tous. Le bouquin fait 600 pages. Hein. Déjà, vous lisez ça, tu dis, bon, je vais le fermer peut-être pour l'instant, hein, parce que je n'y comprends plus rien. Il est fou, ce Luther. Ça, c'est peut-être pas faux. Hein. C'est particulièrement vrai, ce qu'il dit malgré tout, dans le domaine des disciplines spirituelles. Comme nous l'avons vu, le véritable indicateur d'une bonne santé spirituelle, vous vous rappelez, je l'ai dit la semaine passée encore, c'est quoi le bon indicateur de votre santé spirituelle ? C'est de grandir dans l'amour pour Dieu et pour les autres. Ça, c'est un bon indice de mesure, ça. Si nous sommes, alors je vais être très clair par rapport à ces disciplines spirituelles, si nous sommes capables d'accomplir ça, donc d'aimer Dieu de plus en plus fort et les autres aussi, sans l'aide de ces disciplines spirituelles, surtout, il faut les arrêter. Il faut arrêter de les faire. Parce que vous n'en avez pas besoin. Vous en avez besoin de les arrêter, surtout pas. Mais nous savons bien donc que l'expérience, par expérience, que ce n'est pas le cas. Il est tout à fait possible de pratiquer une discipline spirituelle toute la journée durant, mais de le faire de telle façon que nous aimons moins et pas plus. Non ? Dans ce cas-là, il faut évidemment arrêter ces disciplines et surtout peut-être ne jamais avoir commencé. En tout cas, réfléchir au pourquoi on fait les choses. J'y viens. Alors, laissez-moi vous expliquer la bonne approche au travers d'un exemple tiré encore une fois du milieu sportif. Les sportifs ont eu leur compte aujourd'hui. Les joueurs de basket s'entraînent énormément au lancer à 3 points. Vous voyez la ligne des 3 points ? Chaque fois qu'ils rentrent un panier au-delà de cette ligne, ça ne marque pas 2 points, ça en marque 3. C'est pour ça qu'ils s'entraînent. Pourquoi ils s'entraînent tant ? Parce que ça vaut plus de points. Nous sommes d'accord ? Mais la seule raison pour laquelle ils s'entraînent à les marquer, c'est afin de pouvoir le faire pendant les matchs. Là où ça compte. Ils n'ont pas de sous en plus parce qu'ils marquent des 3 points. Ils le font pour pouvoir les rentrer en match. Comprenez ? Être meilleur, plus efficace en tant que joueur de basket, là où ça compte vraiment, sur le parquet, pendant les matchs. Pour lui autrement, s'il fait ça uniquement l'entraînement, pour dire « Oh, t'as vu, j'ai marqué des 3 points », ça sert à rien. Il ferait bien d'arrêter. Il ne le fait que pour les rentrer dans la vraie vie. C'est la même chose avec les disciplines spirituelles. Leur pratique doit nous permettre de devenir meilleurs, la nouvelle version de nous-mêmes, dans la vraie vie. Là où ça compte vraiment. D'accord ? C'est ça l'objectif. Quand vous fermez votre Bible, si vous vous dites « J'ai tout retenu par cœur. J'ai appris 53 versets cette année par cœur. » C'est bien, hein ? « Ouais, je suis une bête. » Non. Ça te permet d'aimer plus ton voisin ? Non. Alors, ça ne sert à rien. Parce que ça, ce n'est pas la vie. Comprenez ? D'accord ? Il faut comprendre, il n'y a rien qui tue plus sûrement le message du Christ qu'un messager aux antipodes du message. J'en sais quelque chose. Quand je suis en dessous de tout, on ne reconnaît pas vraiment Jésus dans mon attitude. Vous comprenez ? Donc, ce qui compte, c'est que je devienne comme Jésus. Que ce que je pratique au quotidien, que j'essaie de pratiquer, est comme objectif que je devienne vraiment comme Jésus, dans la vraie vie. L'objectif, c'est de devenir un disciple du Christ, pas de recevoir des bons points et des médailles. Là, vous avez remarqué, je ne distribue plus pas de médailles, à part à moi-même, quand je suis tout seul. Les disciplines spirituelles ne peuvent donc pas devenir un baromètre, surtout pas, de notre santé spirituelle, parce que dans ce cas, elles nous aideront seulement à faire enfler notre tête et notre cou, comme on dit à Bruxelles, mais pas à élargir notre cœur. Et c'est ça qui compte. Les disciplines spirituelles ne sont pas nécessairement désagréables. Parfait. Quand on pense à prier, lire sa Bible, j'essaie toujours d'être honnête, mais on va en être encore un peu plus. Ça ressemble quand même furieusement à avaler de l'huile de foie de morue, quoi, parfois. Faut que je prie, quoi. Oh, mais j'ai pas envie de prier, quoi. Non? Honnêtement. Vous n'avez pas envie de prier, mais c'est pas bien. Mais on a souvent, on n'ose pas le dire, mais alors, vous pouvez le dire à Dieu. De toute façon, il le sait. Il n'a pas besoin de le verbaliser, il le sait. Hein, il voit votre cœur. Autrement, ce qui fait que quelque chose, ou de quelque chose plutôt, une discipline, c'est encore une fois le pourquoi on s'entraîne, c'est l'objectif. Si nous entraînons pour un triathlon, vous ferez ça sans moi, c'est trop fatigant ça, mais si on veut s'entraîner pour un triathlon, nous pratiquerons un certain nombre d'exercices qui auront probablement à voir, j'espère pour vous, avec la natation, le vélo et la course à pied. Vous n'avez pas shoté des ballons de basket à 3 points si vous vous entraînez pour un triathlon. On va quand même vous dire, ça n'est pas très malin ce que tu fais. Ce n'est pas en rapport avec ton objectif. Par contre, si nous entraînons pour le concours du plus gros mangeur de tartes, là ça va parler beaucoup plus, notre préparation se limitera à avaler de plus en plus de tartes. Si nous le faisons suffisamment longtemps et que notre estomac, notre portefeuille, surtout notre femme le supportent, nous serons finalement surpris du grand nombre de tartes que nous sommes capables d'ingurgiter comparé au début de notre entraînement. Ce qui signifie donc que ce qui compte dans un entraînement ne peut être déterminé que par ce pourquoi nous nous entraînons. La plupart d'entre nous, ils prient, enfin ils essayent, et ils lisent leur Bible parce qu'ils doivent prier et ils doivent lire leur Bible. Il n'y a pas d'objectif là-dedans. C'est pour ça que c'est fatigant. Rendez-vous compte, le gars qui s'entraîne 15 heures de tennis par semaine, 20 heures, 25 heures, 30 heures, il ne joue jamais les matchs, il tape dans le bubble contre le mur. Mais il va arrêter très vite. Ça me pompe. Par contre, la même bubble contre le même mur, il va le faire si l'objectif, c'est de jouer en match et de gagner des matchs. Sa motivation sera beaucoup plus haute. dont la plupart d'entre nous ont l'impression que pour qu'une activité compte en tant que discipline spirituelle, il faut obligatoirement que ce soit quelque chose que nous ne ferions pas en temps normal si nous avions le choix. Autrement dit, si vous pouviez vous passer de prier et de lire votre Bible, vous le feriez. Ouais, d'accord ? Vous en passeriez bien, quoi. Pourtant, et ça c'est une bonne nouvelle, je vous assure que c'est vrai, si nous nous entraînons en vue de vivre une vie caractérisée par la joie, la paix et l'affection, nous devrions admettre que certaines de ces pratiques devraient être franchement agréables. Il y a pire que de s'entraîner à aimer mieux et plus, hein, non ? Donc nous devons sortir de nos têtes, ça va être difficile mais il faut le faire quand même, que la lecture de la parole de Dieu et la prière sont des activités qui valent par elles-mêmes. Elles n'ont de sens et d'intérêt qu'à partir du moment où nous savons vraiment en vue de quoi nous les pratiquons. Vous me suivez ? C'est important de le rappeler, parce que humainement, on a du mal à s'en débarrasser de ça aussi. Ces fameuses disciplines ne sont pas une façon de gagner la faveur de Dieu. Il ne vous dit pas, oh, c'est bien, tu sais, tu as lu ta Bible tous les jours, toi tu es un bon garçon. Toi tu as oublié de la lire jeudi, je ne suis pas content du tout, ça ne marche pas comme ça. Mais on pense souvent que ça marche comme ça. Je lis ma Bible tous les jours, je prie tous les jours, même ne fût-ce que 5 minutes, Dieu est content de moi. Je suis vraiment bien spirituellement. Eh bien non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc ces disciplines ne consistent pas à essayer d'être suffisamment bon pour mériter le pardon de Dieu ou sa bénédiction. Ce ne sont pas non plus un moyen de démontrer à Dieu comment nous sommes, combien, pardon, nous sommes engagés envers lui. T'as vu le mec fantastique que tu as pour fils, quoi. Tu te rends compte? Je lis la Bible en entier, tous les ans, même les versions catholiques avec les apocryphes. Tellement que je suis fort. Alors, je ne dis pas qu'on fonctionne comme ça dans l'ostentation, mais on a quand même parfois du mal à pas se dire... C'est pour l'instant, moi je suis quand même bête spirituellement. J'ai avalé tout le livre des proverbes, quoi. Ces disciplines existent pour notre bien, pas celui de Dieu. Lui n'en a pas besoin. Il connaît un peu la Bible, hein, Dieu, quand même. Il l'a un peu inventé. Donc elles ont de la valeur dans la mesure où elles nous aident à changer. Si on comprend ça, on est sur le bon chemin. C'est ça la motivation à avoir. Et alors, et ça c'est encore plus important peut-être que tout le reste, surtout les disciplines spirituelles ne s'opposent pas ni n'entrent en tension avec la grâce de Dieu. D'accord ? Dieu ne vous fait pas moins grâce, il ne vous aime pas moins parce que vous n'avez pas lu votre Bible ce matin. Et vous ne l'avez pas lu ce matin, j'en suis sûr. Hein ? Moi non plus. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui sortent de milieux très légalistes. On impose beaucoup de choses religieusement. Et ils découvrent enfin la grâce de Dieu, la liberté que cette grâce apporte. Et donc ils sont souvent très méfiants envers les disciplines spirituelles, car ces personnes y voient une autre forme de répression religieuse. Et elles ont raison, si elles sont vécues comme on les vit d'habitude, c'est de la répression religieuse que l'on s'auto-inflige. Ça n'est pas ça à la base dans la pensée de Dieu. Ces disciplines sont simplement un moyen de s'approprier progressivement la véritable vie que Dieu nous offre. Et c'est pour cette raison qu'elles sont parfois appelées le moyen de la grâce, l'outil par lequel Dieu transmet sa grâce au quotidien. Je vais terminer en reprenant, je commençais avec lui, en reprenant une citation, un court extrait d'un ouvrage de Dietrich Bonhoeffer. Il est mort à 39 ans. Quand vous voyez ce qu'il avait écrit, le prix de la grâce. Lisez une fois ce livre, hein, le prix de la grâce. Mais ça va être terrible. Hein. Quel livre. Voilà ce qu'il dit. Et je pense qu'en fait, quand il a écrit ça, je peux me tromper, hein, je n'étais pas dans sa tête, mais je pense qu'il avait ce que je viens de dire à l'esprit en écrivant ça. Voilà ce qu'il dit. Nous devons tenter de recouvrer une véritable compréhension de la mutuelle relation entre la grâce et le discipula, donc la vie de disciple. Il dit, il faut qu'on réconcilie les deux. Et continue, il dit une béatitude. Heureux ceux qui savent que suivre le Christ signifie simplement la vie qui jaillit de la grâce, et que la grâce signifie simplement la vie de disciple. Vous ne pouvez pas être heureux si vous ne devenez pas un disciple, comme le Christ l'entend. Vous serez malheureux dans votre vie spirituelle. Vous ne vous aimerez pas. Vous allez vous flageller parce que vous ne faites pas assez ceci ou pas assez cela ou trop ceci. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Et il continue. Heureux sont ceux qui sont devenus chrétiens dans ce sens du terme-là, qui ont compris que c'est ça la vie de disciple. Parce que pour eux, dit-il, le mot grâce s'est révélé être une source, et il parle du disciple, hein, être une source de miséricorde. Et vous savez pourquoi ? Quelle est la particularité d'un disciple de Jésus ? Il est tout près de Jésus. C'est pas bien ça, d'être tout près de Jésus. Jean, c'était un disciple. Vous savez à quoi je sais ça, que c'était probablement le plus proche ? Parce qu'il posait, l'évangile, Jean posait sa tête là. Geoffrey serait là, et, c'est une expression qu'il aime bien, mettre la tête là. Ben, Jean, il avait compris, il avait tellement compris qui était Jésus qu'il se permettait, à l'époque, c'est quand même des mecs, quoi, hein, c'est les premiers siècles, il savait qu'il pouvait poser sa tête sur sa poitrine. C'est ça être disciple, c'est poser en permanence sa tête sur la poitrine du Christ. Ça ne fait pas penser à quelque chose d'abominable, hein, franchement. Ce n'est pas ça le bonheur. Ça, vous n'avez pas envie de ça ? Mais après moi, hein, ça bourre ma tête à moi. Hein. Non, sa poitrine est assez large pour tout le monde, rassurez-vous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. On continuera la semaine prochaine. Amen.